我的心。Donc, comme je vous disais, donc, je vais vous inviter à dimanche 13 avec moi. Vous m'entendez bien ?
Oui.
D'accord. Donc, ce texte se trouve dans le livre de Jean, le chapitre 4. Et je vais faire la lecture à partir du verset 43. Donc, si vous y êtes, je commence la lecture. Donc, j'ai dit donc Jean, le chapitre 4, à partir du verset 43. Alors, l'auteur nous dit ceci. Après ces deux jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens, qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. À partir du verset 46, il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi, dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. Le verset 48, Jésus lui dit, si vous ne croyez pas, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'en alla. Comme il descendait déjà, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Le verset 52, il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Amen. Prions. Seigneur Jésus, nous voulons encore ce matin te donner l'honneur et la puissance qui t'est due parce que tu es Dieu. Nous voulons te remercier déjà pour cette première partie où ton nom est élevé et nous voulons te prier pour cette seconde partie, Seigneur Jésus. Nous sommes venus ici, Seigneur, donc pour te louer, mais nous sommes venus ici aussi pour être encouragés par toi. Et en ce matin, Seigneur Jésus, je veux simplement un instrument entre tes mains. Je veux simplement être malléable entre tes mains. Je te demande en ce moment, Seigneur, de venir au secours de ma faiblesse. Et toi, le grand Dieu, puisses-tu par ton Saint-Esprit agir à travers moi pour pouvoir nous encourager en cet après-midi, en ce matin, et que vraiment ta parole puisse nous fortifier quand nous avons besoin de toi. Alors, mon Dieu, fais-nous du bien et vraiment, Seigneur, puisses-tu m'utiliser encore en ce jour pour glorifier ton nom, afin qu'en tout temps le nom de Jésus soit glorifié, magnifié, dès maintenant et à jamais. Amen. J'essaie de les trouver sans lunettes, mais je vais les mettre quand même. Ça sera mieux. Si je devais donner un titre à cette intervention ce matin, ce serait avoir recours à Jésus. Pendant une évasion de l'époque, les ennemis avaient mis le siège devant une petite ville, qui, contrairement à ce qu'ils pensaient, leur opposa une résistance acharnée. Les mois passaient, et les défenseurs ne paraissaient pas vouloir se rendre. Persuadés que la ville devait souffrir de la famine, les assiégeants envoyèrent un messager de la paix au bas de l'amiral. La réponse vient sans parole, sous forme de pique brandie à bout de bras. On voyait suspendus des quartiers de viande, du poisson frais et d'autres rituels. Cela voulait dire que la ville ne manquait pas de nourriture. Il y en avait même en abondance. De sorte qu'elle n'avait pas lieu de se rendre. Elle disposait d'un long passage souterrain qui lui permettait d'aller se ravitailler beaucoup plus loin. Les ennemis cherchèrent vainement à le découvrir et finalement levèrent le siège. C'est ainsi que les croyants assaillis par le diable et ses troupes n'ont rien à craindre, car eux aussi disposent par la prière d'un invisible et inviolable passage vers les ressources illimitées de Dieu. Jésus a dit lui-même, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. » Donc, nous devons avoir recours à lui. Dans notre texte de ce matin, nous verrons comment un homme va chercher du secours auprès de Jésus. Un premier point que je voudrais voir avec vous, c'est que l'officier du roi avait un besoin. Quel était ce besoin? Ce besoin, c'était la guérison de son fils. Le verset 47 nous dit ceci. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était prêt de mourir. Son fils était prêt de mourir. C'est une situation tragique, une situation difficile. Je crois que pour mieux comprendre la situation de cet homme, cet officier du roi, on peut se mettre à sa place. Lorsqu'on a un enfant qui est malade, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir guérir cet enfant. Ce sont nos entrailles mêmes qui sont malades, ce sont nos entrailles mêmes qui souffrent. Et je me dis que certainement, cet homme a fait tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir guérir cet enfant. Il est sans doute allé voir les meilleurs médecins du temps, de son temps. Et puis, ça n'a rien donné. Et puis un jour, le verdict est tombé. Son enfant était condamné. Il n'y avait pas d'espoir. C'est terrible hein, quand on entend ça, il n'y a pas d'espoir. L'être humain toujours se rapprocher à quelque chose. On a toujours l'espoir que ça ira mieux, que les choses vont changer. Et là, cet homme s'est trouvé dans une situation où il n'y avait plus d'espoir. Son fils était prêt de mourir. Mais la Bible nous dit que cet officier avait entendu parler de Jésus qui faisait des miracles. Et qu'est-ce que cet homme a fait? Il est allé vers Jésus. Cet homme a fait le bon choix. Aller à Jésus avec ses difficultés. Aller à Jésus avec son problème. C'est le meilleur choix qui soit. Aller à Jésus. Et en ce matin, je crois qu'on peut faire ce parallèle avec nous qui sommes parvenus en ces derniers temps. Ces temps si difficiles, ces temps si compliqués, ces temps où l'ennemi fait rage. Nous devons avoir parmi cet homme le réflexe d'aller à Jésus, dans les bons comme dans les mauvais jours. Puissons-nous toujours aller à Jésus avec nos différends, nos problèmes. Il prendra soin de nous. Je crois que quelle que soit la situation dans laquelle nous trouverons toujours du secours en Jésus. La délivrance se trouvera toujours quand Jésus seul. Donc puissions-nous aller à Jésus dans la prière, présenter au Seigneur nos difficultés. Je crois que ce n'est pas la peine de nous confier en l'homme. Parce que l'homme n'a pas la solution. et nous serons toujours déçus. Il est vrai que nous vivons dans une société, je vais même dire dans un monde, je vais dire humaniste, un monde qui a rejeté Dieu. Dieu jeté par-dessus bord, on ne veut pas de lui. On ne veut pas de Jésus dans ta barque. On va contenter tout seul. On n'a pas besoin de Dieu. Et de plus en plus, on constate que c'est comme ça. L'homme rejette Dieu. Dieu n'existe pas. La Bible, c'est de la mythologie. Tout ça, ce sont des boniments. Non. S'il y a l'horloge, il y a aussi l'horloger. Notre Dieu est vivant. Le psaume 49, le verset 8 à 9, nous dit ceci. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Un seul a payé le prix, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas deux. C'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Et comme nous dit ce beau texte, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. L'homme ne peut pas racheter l'homme, ni donner à Dieu le prix du rachat. Puis, tu sais, riche, avoir des milliards, on va dire. Mais comme nous dit ce beau texte, le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ça veut dire que on peut disposer de deux comptes en banque, mais notre argent ne pourra pas nous racheter devant Dieu. On peut avoir de l'argent, on peut avoir tout ce qu'on veut de grands biens, mais tout ça, c'est pas ça qui va payer le rachat devant Dieu. Et un seul a payé le prix, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme est tombé dans le péché, donc il y a cette séparation. Et la difficulté, c'est que l'homme est tombé dans le péché et toute la race humaine est tombée dans le péché. Donc, il y a quand même un homme juste. Tous sont pervertis et tous ont besoin de Jésus. Donc, c'est pour cela. Et la Bible nous dit que d'une source souillée, il ne peut sortir une eau pure, une eau douce. Et c'est là la difficulté. Et que tous les hommes sont souillés. Il n'y en a que Dieu qui peut payer le prix pour un homme. C'est pour cela que le rachat de leur homme est cher. Il n'aura jamais lieu. Mais Jésus-Christ a payé le prix. C'est en Jésus que nous avons la vie. Ça, c'était le premier point. Donc, à savoir que l'hôpital du roi avait un besoin, c'était la guérison de son fils. Et j'ai fait ce parallèle à savoir que nous aussi, nous avons des difficultés, mais nous devons aller aussi à Jésus. Le deuxième point, l'hôpital du roi est allé à Jésus. Mais cette démarche lui a coûté aussi des efforts. Lisons le verset 46, les versets 46 et 47. Nous lisons ceci. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé d'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le Christ était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était prêt de mourir. En ouvrant ces deux versets, nous nous rendons compte que cet homme a fait le trajet de Capernaum à Cana. Il a noté que la distance entre ces deux villes était environ de, on va dire 38 kilomètres, 38 à 40 kilomètres. On va dire plus rien de nos jours. En voiture, ça peut faire en quelques minutes. En quelques minutes, c'est fait. Mais la difficulté, c'est qu'en ce temps-là, il n'y a pas de voiture. Vous n'avez plus le faire à moto, il n'y a pas de moto non plus. À vélo, il n'y a pas de vélo. Les plus fortunés avaient soit un cheval ou soit un mulet, mais la plupart du temps, les gens marchaient à pied. Donc cet homme a fait ce déplacement. Il a fait cette franchise à 40 km. Ça lui a coûté de la sueur, hein. Ça lui a coûté des efforts. En plus, ces régions, c'est assez vallonné, c'est pas comme chez nous, où c'est plat, il y a du plat. C'est un peu vallonné ces endroits, ces lieux, ce lieu du moins. Donc nous voyons que pour se rendre donc, de Capernaum à Cana, il a fallu faire la distance, il a fallu faire ces 40 km. Ça lui a coûté de la transpiration. Et on pense qu'il y a peut-être qu'on en a peut-être pour une journée de marche. Une journée de marche. Là aussi, nous pouvons faire un parallèle avec nous qui sommes parvenus dans ces derniers temps. Venir à Jésus, ça nous coûte aussi. Hein. Des fois, parce qu'on a accepté Jésus, parce qu'on est différent, on n'est pas accepté. On est méprisé. Le monde aime celui qui lui ressemble lorsqu'on agit comme eux. Mais lorsqu'on a décidé de suivre Jésus et d'avoir une attitude correcte à ce que la Bible nous enseigne, on n'est pas apprécié. Et cela nous coûte. Peut-être que ça nous coûte des moqueries, peut-être que ça nous coûte aussi d'être mal vu, des railleries. Il y a un auteur qui a écrit un beau chant, un chant que je suis certain que vous connaissez. Et je médite un peu les paroles de ce chant. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Et l'auteur donne un refrain, jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi Jésus pour toujours. Une autre sorte nous dit, il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer les jours même du monde, être méprisé. Et comme toute parole concrète. Mais l'auteur revient chaque fois avec ce beau refrain. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir ou vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, toutes ces souffrances, c'est bon sang. Un jour, nous arriverons à la Cana en céleste. Un jour, toutes ces souffrances prendront fin. Un jour, nous allons nous joindre avec cette multitude d'anges, cette multitude de chrétiens qui seront rassemblés pour chanter le cantique nouveau. Donc, ne perdons pas courage. Comme dit ce beau chant, nombreux comme le sable des plages. Il y aura tous ces cloches de toutes ces générations, depuis les premiers chrétiens. Après la mort de Jésus, jusqu'à nous, toute cette multitude sera là pour donner gloire à l'amour. Ce sera merveilleux. Ils chanteront ce cantique nouveau. Donc, même s'il y a des difficultés, des épreuves, les restons attachés au Seigneur. Ils continuent le chemin avec lui. Donc, l'officier est allé à Jésus, mais cette démarche lui a coûté des efforts, comme nous aussi. Venir à Jésus, ça nous coûte aussi des efforts. Mais nous sommes tous vainqueurs en Jésus-Christ. L'officier est allé à Jésus, mais il s'est allé à Jésus avec sa compréhension des choses. Il est allé à Jésus avec sa compréhension des choses. Le verset 49 nous dit ceci. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Il avait sa propre compréhension des choses. Pour lui, il y avait un temps d'exécution. Et ce temps d'exécution, c'était maintenant. Descends avant que mon enfant meure. ça laisse à penser que cet homme voyait Jésus comme une sorte de guérisseur. Il fallait impérativement que son fils soit encore vivant pour une intervention du Seigneur. Cela sous-entendait que si jamais cet enfant malheureusement partait, mourait, ça serait fini. Jésus n'aurait plus rien fait. En tant que guérisseur, il n'aurait pas pu faire autre chose. À travers cette attitude, cet homme limitait la puissance de Jésus en quelque sorte. Mais nous savons que la puissance de notre Dieu est limitée. Jésus a dit lui-même, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Oui, notre Dieu est puissant. Notre Dieu est fort. Nous avons cet exemple dans Jean 11, qui nous parle de Lazare. Lazare est un homme que Dieu aimait avec ses deux sœurs, Marthe et Marie. Et ne voit-il pas que Lazare était malade? Alors les deux sœurs ont fait appel à Jésus, lui demandant de venir pour faire du bien, pour guérir leur frère. Et Jésus est resté deux jours de plus là où il était. Et après il est venu dans ce village. Mais malheureusement, ça faisait déjà quatre jours que Lazare était décédé. Les sœurs ont reproché à Jésus, lui disant que si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Pour eux, c'était fini. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la résurrection et la vie. Et Jésus-Christ va ressusciter cet homme. Cet homme était déjà mort depuis 4 jours. Il était quasiment en état de putréfaction. Et Jésus va crier, il va dire, Lazare, sors. Et cet homme va se remettre. Quelle puissance, frères et sœurs. Et je crois que ce que nous devons toujours nous rappeler, c'est que ce Dieu-là qui a fait ses œuvres merveilleuses, c'est lui que nous avons loué ce matin. C'est lui que nous avons adoré ce matin. La Bible nous dit que Jésus demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ n'a pas changé. C'est le même Dieu que nous adorons. Ce Dieu puissant et fort. Souvent nous l'oublions, mais Jésus-Christ est puissant. Le Dieu que vous servez, le Dieu que nous servons est grand. Pour que le Seigneur nous permette de nous rappeler que rien n'est possible à notre Dieu. Et Jésus-Christ ne vient jamais trop tard. Avec Jésus, il n'est jamais trop tard. Pour Marthe et Marie, c'est trop tard. Hein. C'est fini, tout est fini. Si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Pour eux, Jésus arrivait trop tard. Pour elle, Jésus arrivait trop tard. Mais avec Jésus-Christ, il n'est jamais trop tard. Parfois, nous avons des difficultés, nous prions le Seigneur que les choses ne marchent pas, mais juste, vous connaissez toutes choses. Et en son temps, il agira. Mais une chose est sûre, c'est que notre Dieu ne vient jamais, jamais trop tard. Donc, cet officier du roi est venu avec sa compréhension des choses. Il savait que le Seigneur agit maintenant. Parce que pour lui, si cet enfant mourait, le guérisseur il va en Jésus n'aurait pas pu faire quoi que ce soit d'autre. Mais Jésus n'est pas un guérisseur. Jésus-Christ est Dieu. Et il est tout puissant. Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. L'officier du roi aussi avait une autre compréhension des choses. Pour lui, il fallait le lieu d'exécution. Pour lui, il fallait que Jésus soit au chevet de son enfant. Descends avant que. Cela laisse à penser qu'il fallait que Jésus soit sous place pour guérir son fils. Jésus-Christ n'a pas besoin d'être sous place. Jésus n'a pas besoin d'être sous place pour guérir ses enfants. Il pouvait le faire à distance.
là aussi, rien ne lui est impossible. Donc nous voyons que cet homme est venu, il s'est approché de Jésus, mais il avait une certaine compréhension des choses. Il s'est approché de Jésus avec sa façon de comprendre les choses. Un troisième point, Jésus intervient pour l'officier. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il va guérir son fils. Le verset 50 nous dit, « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Jésus dit, « Ton fils vit. » Quelle parole d'autorité? Ton fils vit. Qui a pu se mettre debout et dire qu'il n'en serait pas ainsi? Qui avait l'autorité pour dire à ce grand Dieu, ah ben non, cet enfant ne vivra pas? Même les puissances des ténèbres ne pouvaient se manifester. Parce que c'est le Dieu d'autorité qui avait parlé. Jésus dit, ton fils vit. Lorsque notre Dieu parle, personne ne peut aller à contre-courant. Personne ne peut lui dire pourquoi tu fais ceci. Il a parlé avec cette autorité, ton fils vit, et il en était ainsi. Nous voyons à travers cette phrase que il a répondu à la supplication de l'officier. Malgré que cet officier avait une compréhension des choses, une certaine compréhension de Dieu, une compréhension, on va dire, imparfaite, une foi imparfaite, pour ses voies, peut-être quand Jésus est un guérisseur, mais nous voyons l'amour de Jésus quand même. Malgré que cet homme n'avait pas la foi qu'il fallait, malgré qu'il n'avait pas cette foi parfaite, malgré ses manquements, peut-être son incrédulité, mais Dieu a répondu quand même à sa supplication. Et à travers cela, je vois la compassion et la bienveillance de ce grand Dieu. Comment Dieu aime l'homme? Comment Dieu nous aime? Malgré qu'il n'avait pas la compréhension correcte des choses, mais Dieu lui a fait grâce. Et Dieu a béni cet enfant. Il a relevé cet enfant. Ton fils vit. Lorsque nous lisons un peu le texte, le reste du texte, nous voyons que Jésus parle à la septième heure. Et donc, cet homme ne pouvait pas rentrer chez lui après, car s'il était rentré après, ce serait déjà la nuit. Donc, ça sous-entend que lorsque Jésus parle de la septième heure, s'il était sorti pour rentrer chez lui, il n'aurait pas pu rentrer. Parce qu'on pense qu'en cette période, les gens ne voyageaient pas beaucoup la nuit, et ça sous-entend que cet homme est resté dans les parages pour la nuit. Parce que lorsque nous avons dit texte, il nous a dit que l'enfant lorsqu'il a rencontré ses amis, il lui a dit que l'enfant c'est vers la septième heure qu'il s'est senti mieux. Donc lorsque cet homme a laissé Jésus, il était déjà trop tard pour retourner chez lui, il est allé dormir quelque part. Et je me dis que sans doute, au cours de la nuit, les pensées peut-être me sont venues à la tête. Est-ce que vraiment mon fils est guéri? Le diable aussi, il est là, notre adversaire. Et sans doute, le diable a essayé de décourager cet homme en disant, est-ce que vraiment ton fils est guéri? Mais le verset nous dit, va lui dire Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Il a cru à la parole. En quelque sorte, cet homme a tenu bon. Même si le diable est venu pour le dire, pour agir pour lui dire, est-ce que vraiment son fils est en bonne santé? Est-ce que vraiment il est guéri? Parce que lorsqu'on est loin, c'est facile, hein? Jésus lui a dit, ton fils vit, mais il n'était pas sur place. Et je me dis, qu'est-ce que comment le diable est venu pour le dire, pour agir? Mais à travers le texte, nous voyons que cet homme a tenu bon. Il a cru. Il a cru en son Dieu. Il a cru en Jésus. Nous voyons qu'à travers cette phrase, ton fils vit, la puissance de la mort est arrêtée par la puissance de la vie venue d'en haut. Quelle autorité? Quelle autorité? Ma veuille a passé la nuit dans les parages. Ma veuille, certainement, les pensées qui sont venues à sa tête disant que son fils vraiment était guéri, mais notre mari a tenu bon. Il a cru en la parole de Dieu. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est grand. 1 Corinthiens 16, le verset 13 nous dit Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes et fortifiez-vous. C'est vrai que les temps sont difficiles, mais puissons-nous tenir ferme dans la foi. Ne pas nous décourager, mais toujours avancer avec notre Dieu. Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes et fortifiez-vous. Jésus donc intervient pour l'officier du roi, il guérit son fils. Et il y a ce point important aussi, Jésus veut aussi guérir les cœurs. Le verset 53 nous dit, le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, son fils vit, et il crut, lui et toute sa maison. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, son fils vit, et il crut, lui et toute sa maison. En fait, quand ce père-là savait dans quel état se trouvait son fils. Le père savait, la famille savait dans quel état se trouvait cet enfant. Ils savaient que leur enfant était prêt de mourir, donc il n'y avait plus d'espoir. Et ils savaient que ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est un miracle. Et en cela, ils ont reconnu que cet homme qui était là, ce n'était pas un guérisseur. Mais ils ont reconnu en Jésus que c'était le Messie. Ils ont reconnu que c'était le maître de l'univers qui était à leur côté. Et là, ils ont vraiment cru. Parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé. Et tout cela, le plus important, c'est que l'homme fasse une rencontre personnel avec Jésus-Christ. Parce que Dieu veut que l'homme soit guéri intérieurement. Il est vrai que la guérison physique, elle est merveilleuse, parce que c'est sûr, nous avons un enfant malade, et nous voulons sa guérison. Mais il y a encore plus terrible que la mort physique, il y a cette mort spirituelle. Elle est encore plus terrible, parce que c'est la séparation irrémédiable avec Dieu et sans retour. C'est pour cela que cette mort est terrible. Et je voudrais lire un verset. C'est dans Actes 17, le verset 100. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ils ont à se repentir. Et c'est ça le message de l'Évangile, à savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix et que chacun nous avons notre mot à dire. Nous vivons dans une société où on dit que ça ne m'intéresse pas. Je suis appris, je suis à notre couple. Les choses de la Bible, alors je verrai ça après. Mais malheureusement, personne ne connaît la vie au sable. Aucun de nous ne sait si on verra cet après-midi. Donc Dieu annonce à tous les hommes qu'il y a un jour il va falloir rendre compte. Donc cette parole est encore devant nous ce matin. Nous devons nous préparer parce que nous ne connaissons pas la fin de nos jours, la fin de notre vie. Et c'est pour cela que le Seigneur nous demande d'être prêt. C'est pour cela que le Seigneur nous demande de choisir Jésus-Christ. Parce que la mort spirituelle, la mort éternelle, l'enfer, c'est une réalité. Alors pour ceux peut-être qui n'ont pas encore fait, c'est encore temps. Jésus est là. Un pasteur disait que Jésus-Christ est un gentleman. Il ne vient pas enfoncer la porte des cœurs, mais il frappe. Il frappe et il demande « Est-ce que tu veux me laisser entrer ?» afin que je puisse devenir ton sauveur, son Seigneur. Donc Jésus frappe encore aujourd'hui dans les cœurs. Il appelle à la repentance. Donc non, nous ne voyons pas demain, nous soyons prêts, parce que nous ne savons pas quand est-ce qu'il vient nous chercher. C'est pour ça que nous sommes demandés d'être prêts. Afin que lorsqu'il viendra, nous puissions partir avec Jésus. Et que nous puissions dans l'éternité de bonheur avec Jésus. Je voudrais donner cette conclusion. Dans Jean 1, verset 2, nous est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse, richement, qu'il nous donne à nous rappeler que nous avons à faire un grand Dieu. Le Dieu que nous servons est grand. Il est puissant. Il est majestueux. Il nous aime. Il a un pouvoir illimité. Ce Dieu qui est limité aujourd'hui. Mais surtout, il nous sauve aussi. Alors que Dieu nous donne à tenir ferme, malgré les difficultés, peut-être les embûches, mais reste attaché au Seigneur et continuons à avancer avec lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prions. Seigneur, je veux encore te glorifier, te magnifier parce que tu es merveilleux. Merci Seigneur parce qu'à travers ce texte, nous voyons comment tu es bon. Cet homme avait un besoin. Cet homme avait une compréhension différente. Il te connaissait pas réellement. Mais là, c'est merveilleux, c'est que Seigneur, tu es venu. Tu as répondu à ta prière, à travers tes manquements, tes imperfections. Mais tu n'as pas regardé à ça, et tu l'as béni. Tu as relevé cet enfant. Et à travers tous ces textes, mon Dieu, nous voyons comment tu es bon, comment tu es merveilleux. Alors, Seigneur, ce que nous voulons, nous aussi, c'est rester attachés à toi, avoir recours à toi, nous rappeler que nous avons un grand Dieu qui nous aime et qui nous veut du bien. Alors, nous restons attachés à toi, fixer les yeux sur toi, sachant que tu es grand, tu es puissant, tu es majestueux, et que jamais tu ne changeras. Bénis encore chacun de nous, bénis encore mes frères et sœurs, et quand tout ton grand nous sera levé dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.